RJB Info.
Et on s'informe ce soir avec vous dans le journal, Joël Régli, bonsoir.
Bonsoir. Ce chiffre qui fait froid dans le dos, un soignant sur deux dit vouloir changer de travail. Il s'agit des résultats d'une enquête du syndicat Unia. Le personnel des EMS est particulièrement touché. Une colline juste au-dessus de Sorvilliers au centre de l'attention. Aujourd'hui, un hélicoptère et deux entreprises forestières de la région y ont effectué des travaux d'élagage. La mesure vise à compenser les atteintes à l'environnement de la Transjurane. Faut-il éteindre l'éclairage public la nuit dans nos villages? Courtébert va faire un premier pas en ce sens. La localité a annoncé qu'elle procédera à une phase test après Pâques. Le bureau de prévention des accidents dénonce une mesure dangereuse. Demain matin, seuls de rares brouillards sur le Seeland feront de la résistance en matinée. Sinon, le soleil imposera son règne sans partage. Les températures atteindront des maxima compris entre 11 et 13 degrés. Dimanche, même scénario avec un soleil très présent et des températures à la hausse. Avec le vieillissement de la population, le métier de soignant dans les EMS devrait être une profession d'avenir. Détrompez-vous. Une enquête du syndicat Unia montre que près de la moitié des soignants ne resteront pas à leur poste jusqu'à la retraite. De larges majorités disent être épuisées, souffrir de problèmes physiques à cause du travail ou encore manquer de temps pour les résidents. Elles dénoncent également la qualité des soins non optimale en raison des pressions sur le personnel et des moyens à disposition. Unia réclame davantage de personnel, de moyens et des salaires plus justes aussi, ce d'autant que la plupart du personnel soignant est féminin. Yolande Peissel, secrétaire syndicale à Unia.
Pour pouvoir améliorer les conditions de travail, il faut plus de ressources. Pour avoir plus de ressources, il faut plus d'argent. On estime qu'il y a un sous-financement dans ces soins-là et qu'il faut trouver une manière de financer correctement les soins des personnes âgées. Il en va de la dignité des personnes âgées, mais aussi du personnel. Nous demandons un cadrage des conditions de travail pour avoir des planifications qui sont équitables, qui ne se font pas sur le dos de la santé des employés, et puis qui permettent justement un équilibre entre vie privée et vie professionnelle correcte.
Wabco Automotive va installer son siège mondial dans le canton de Berne. La direction de l'économie publique l'a fait savoir cet après-midi dans un communiqué. Le leader mondial des systèmes de freinage et de conduite pour véhicules utilitaires est actuellement installé à Bruxelles. Il recherchait un nouveau site depuis plusieurs mois. Wabco Automotive a finalement retenu le canton de Berne pour sa proximité avec les départements de recherche spécialisés des hautes écoles, les partenaires industriels et les autorités fédérales. Alexandre Steiner, est-ce que l'on peut également s'attendre à des retombées dans la région?
Eh bien oui, c'est en tout cas le souhait du chef de la promotion économique bernoise. Contacté cet après-midi, Sébastien Fries précise que le groupe s'installera en ville de Berne, mais que des développements pourraient avoir lieu ailleurs dans le canton. Il nous a notamment confié que des projets pourraient être menés du côté de Bienne, par exemple en lien avec des recherches sur la conduite autonome. Le déménagement de Wabco Automotive implique l'arrivée d'une quarantaine de cadres dirigeants qui seront transférés de Belgique à Berne. À terme, la firme cotée à la Bourse de New York prévoit de créer un centre de compétences pour les nouvelles technologies sur son nouveau site. Dans tous les cas, cette implantation donnera une visibilité internationale au canton. Les produits de Wabco Automotive sont utilisés par les plus grands constructeurs mondiaux de poids lourds, d'autobus et de remorques.
Merci Alexandre pour ces précisions. Notez encore que l'an dernier, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,8 milliards de dollars. Il emploie plus de 16 000 personnes à travers le monde. Un pas de plus vers la réforme des directions cantonales. Le conseil exécutif a approuvé la révision de la loi nécessaire à cette réorganisation. Le texte constitue une condition préalable au remaniement des dicastères. Dans son projet, le gouvernement bernois demande de pouvoir procéder à ces changements d'attribution sans devoir obtenir l'approbation du Grand Conseil. But de l'opération, accélérer les processus. Le législatif bernois devrait se prononcer en juin. Vers une ère pour les gens du voyage à Ville-Roltingen. La commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire du Grand Conseil est favorable aux crédits destinés à cet aménagement. L'aire de transit pour les gens du voyage étrangers prendrait place près de l'aire d'autoroute de la commune voisine de Mühleberg. Pour rappel, en 2016, le Grand Conseil avait refusé un crédit en faveur d'une télé-aire de stationnement près de Meinisberg. Les raisons invoquées à cette époque tenaient au coût trop élevé. Ce nouveau projet est lui estimé à 3,3 millions de francs. Dans la région, un hélicoptère ce matin a effectué des travaux d'élagage du côté de Sorvilliers. Il s'agit d'une mesure compensatoire liée à la construction de la Transjurane. L'engin est venu exprès depuis la Gruyère. Il a permis de sortir les troncs sur une colline au nord du village, inaccessible en véhicule. Le bois a ensuite été amené à un endroit où les bûcherons ont pu le travailler. Les deux entreprises forestières régionales Affolter et Rossé ont été engagées sur le chantier. Kevin Affolter explique comment les troncs sont fixés à l'hélicoptère.
Alors ils sont attachés avec des câbles d'attache, des élègues, comme on appelle dans le monde forestier. Et puis donc, c'est un décrochage automatique, c'est le pilote qui décide. Si la charge est trop lourde, il peut lâcher à tout moment. Ou alors, à la place de dépôt, quand son arbre est posé, il presse un bouton, puis ça décroche l'élègue. En termes de sécurité aujourd'hui, il faut être très attentif à l'élègue de l'hélicoptère. Donc c'est une attache qui pèse environ 150 kg. Donc si on la reçoit dans la tête quand l'hélicoptère vient, c'est mal barré. Et puis à la machine qui est présente là, donc pour empiler et trier le bois, il faut être très attentif surtout à ces deux choses-là, ainsi qu'aux projections de branches, donc du souffle de l'hélicoptère qui envoie toutes sortes de branches donc à l'horizon. Et puis il faut faire attention à ça.
Et l'élagage permettra à l'alisier blanc et au pin de mieux se développer. Les plantes au sol qui aiment le chaud seront également favorisées dans leur pousse. Et les mesures compensatoires liées à la Transjurane devraient toutes être terminées d'ici début 2020. Et vous pouvez retrouver une galerie photo et une vidéo de ces travaux sur notre site internet rjb.ch. De plus en plus de communes réfléchissent à la question « Faut-il éteindre l'éclairage public pour réduire la pollution lumineuse ?» Dans le Jura bernois, Courtébert a annoncé ce matin qu'une phase test d'extinction des luminaires du village allait être lancée après Pâques. Le canton du Jura prévoit de son côté de réduire, voire de supprimer l'éclairage en dehors des localités, notamment à la Caquerelle ou encore au col des Rangiers. Le bureau de prévention des accidents est sceptique face à de telles mesures. Le porte-parole du BPA, Marc Kipfer.
Je peux vous dire ce que dit la science, et c'est que là où on met de l'éclairage, on a moins d'accidents, surtout en localité, mais aussi hors localité, et surtout en ce qui concerne les piétons. Nous connaissons des analyses où on a fait le contraire, alors là où on a mis de l'éclairage public où il n'existait pas encore, en moyenne on a eu une réduction des accidents mortels de piétons de presque 80%. En dehors des villages, c'est vrai que les résultats scientifiques sont un peu moins clairs, mais on constate là aussi une réduction des accidents là où un éclairage a été installé. Mais notre conseil aux autorités est de bien éclairer au moins les intersections, les giratoires et les obstacles s'il y en a. Donc du point de vue de la sécurité, ce n'est pas un bon choix de supprimer l'éclairage en localité mais aussi hors localité.
Accident toujours, mais cette fois qui s'est produit à Bienne. Cet après-midi, un scooteriste a terminé sa course contre l'arrière d'une voiture. L'accident s'est produit sur la route de Bruck, à la hauteur de la station-service. Les deux véhicules circulaient depuis Bienne en direction de Bruck lorsqu'ils sont entrés en collision pour une raison encore indéterminée. Le scooteriste a été transporté à l'hôpital en ambulance. Ses jours ne sont toutefois pas en danger. La police cantonale bernoise a reçu l'annonce du sinistre vers 15h50. La circulation a été limitée sur une voie durant une demi-heure. La Chaux-de-Fonds en noir et blanc et en couleur. La 8e nuit de la photo commence demain dans divers lieux de la métropole horlogère. La manifestation débutera à 17h avec une conférence au Club 44. L'institution accueille également la présentation d'un travail de David Marchand. Le photographe a suivi pendant un an Elsa, une petite fille atteinte d'une maladie orpheline, le syndrome du cri du chat. Lors de l'édition précédente de la nuit de la photo, David Marchand avait reçu une bourse de 5000 francs pour ce reportage, un prix qui n'a pas influencé son travail.
J'ai eu une immense liberté du comité de la nuit de la photo. Ils m'ont juste donné une date et puis je devais juste représenter un diaporama. Mais après, ils m'ont pas du tout influencé dans la direction à prendre. J'avais été jugé juste sur 8 images et puis sur ces 8 images, ils m'ont fait une petite critique. Mais après, moi, j'avais une liberté absolument totale sur le reportage. Et puis, heureusement, parce que c'est quelque chose de très personnel. C'est une rencontre donc entre moi, Elsa, ses parents, ses physios, etc. Donc, c'est compliqué pour quelqu'un d'extérieur d'influencer une rencontre, en fait. Donc, j'ai eu une liberté totale.
Le travail de David Marchand fait également l'objet d'un livre qui sera verni lors de la nuit de la photo. Le programme complet de la nuit est disponible en lien sur notre site internet rjb.ch. Les radios romandes interrogent leur public. L'atelier radiophonique roman Araro a fêté sa 10e édition ce matin au Jeune Rive à Neuchâtel en sortant des sentiers battus. Traditionnellement centré sur les métiers des professionnels du monde radiophonique, le cycle de conférences a cette fois mis la lumière sur l'auditeur. Les résultats de l'audience numérique du semestre passé ont été dévoilés. Désormais, 64% des auditeurs écoutent la radio par voie numérique par rapport à la radio traditionnelle. Mais le DAB+ n'est pas encore dominant. Le président des radios régionales romandes, Philippe Zano.
La radio s'écoute par tiers aujourd'hui. Il y a un tiers d'auditeurs qui est en FM classique. Il y a un tiers d'auditeurs qui est en IP ou sur Internet. Et puis il y a un tiers d'auditeurs qui écoutent la radio par DAB+. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que le tiers de la FM diminue au profit des deux autres. Mais nous n'avons pas de priorité entre la radio par le web et la radio par le DAB+. Un s'écoute sur l'ordinateur et l'autre s'écoute dans la nature parce qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur. Et c'est pour cela que nous voulons les deux.
À l'étranger, Donald Trump a annoncé aujourd'hui qu'il allait déclarer l'urgence nationale. Il s'agit d'une procédure exceptionnelle pour financer le mur qu'il a promis à la frontière mexicaine. Cette déclaration ouvre une féroce bataille judiciaire avec ses opposants. Ces derniers voient dans cette décision la basse manœuvre politique d'un président affaibli par la perte de la Chambre des représentants.
RGP, les 18h12.
Sport.
La deuxième manche du slalom géant bat son plein en ce moment du côté de Auré en Suède. Lors du premier tracé de ce matin, le Français Alexis Pinturo était le plus rapide devant l'Autrichien Marcel Hirscher et le Norvégien Henrik Kristoffersen. Meilleur Suisse Loïc Meyer avec un retard de 75 centièmes sur le leader. Et pour l'heure, dans cette deuxième manche, c'est l'Autrichien Marco Schwarz qui mène le bal. Deuxième derrière lui, juste le Français Victor Mufajandet. Les deux Suisses qualifiés pour cette deuxième manche ne sont pas encore descendus. Il s'agit de Marco Odermatt et Loïc Meyer. Et puis après ce journal de 18h30 à 19h, premier bilan des championnats du monde de ski alpin avec notre envoyé spécial en Suède, Hugo da Custodia. C'est dans notre émission Cap Sport. Rendez-vous dès 18h30. Enfin, HCBN Zurich Lions, l'affiche de ce soir en National League de hockey sur glace. Les Saylandais jouent à domicile à 19h45 contre un concurrent direct à une place en play-off. Bienne, 5e, compte 68 points contre 62 aux Zurichois, 7e au classement. À noter que ce soir, c'est la Ladies Night. Les dames profitent d'une réduction de 50% sur le prix de leur entrée à la Tissot Arena. HCB ZSC, la rencontre est à vivre en direct sur RJB dès 19h30.
Il sera question de combat ce soir dans Cap Sport, tout à l'heure, donc à 18h30. Le combat pour décrocher des médailles au championnat du monde de ski, tout d'abord, alors que les mondiaux, vous l'avez entendu, mondiaux dorés touchent à leur fin gentiment. On dressera un premier bilan donc de ces joutes avec notre envoyé spécial sur place. Le combat aussi pour organiser une compétition mondiale dans l'arc jurassien. Ensuite, on fera le point sur les préparatifs des championnats du monde féminin d'uni-hockey. Ils se tiendront en décembre prochain à Neuchâtel et le tirage au sort des groupes a été effectué cette semaine. Et combat sur un ring enfin, alors que le Lions Fighting Championship va vivre sa 8e édition demain à Neuchâtel. On se penche sur la pratique du MMA, les arts martiaux mixtes dans la région. Sport de combat ultime, il peut choquer et heurter certaines sensibilités. Comment protéger donc la jeunesse et accompagner l'essor de cette discipline? Réponse avec l'ancien combattant professionnel Nelson Carvalho. C'est tout à l'heure dans Cap Sport de 18h30 à 19h. Cette soirée, cette nuit, le temps sera toujours calme et sec, sous un ciel dégagé. Demain, très belle journée en perspective avec des conditions bien ensoleillées dans un ciel le plus souvent sans nuages, si on exclut bien sûr les rares brouillards du matin. Niveau température, on commencera avec du négatif, entre moins 5 et moins 1 degré, contre des maximales bien plus douces, enregistrées entre 9 et 14 en seconde partie de journée. Enfin dimanche, même programme.